Humilions-nous devant Dieu. Notre Père, nous nous humilions devant toi. Ta parole est sainte. Nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tu es trois fois saint. Et tu es El Shaddai, celui qui peut tout, qui a eu la puissance de créer les cieux et la terre, celui qui transforme nos vies, qui se glorifie en nous. Seigneur Jésus, merci de te glorifier à l'instant. Merci de garder nos cœurs, nos pensées fixées sur toi. Merci de parler à nos cœurs, que tu puisses les attendrir, afin que nous puissions être prêts à recevoir cette parole, non pas comme des auditeurs oublieux qui s'en vont en ne se laissant pas transformer ou reprendre ou exhorter, mais en ayant des cœurs enseignables. Alors nous te disons, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, parle à nos cœurs, que ta parole nous parle ce matin. Merci pour tous ceux qui sont là ce matin, merci de bénir les uns et les autres, et te recommandons nos visiteurs en particulier, au nom de Jésus. Amen. Alors le message de ce matin, c'est « Donner selon Dieu », avec un accent sur le don de la promesse de la foi, puisque nous sommes engagés en tant qu'Église à aller dans ce sens. Et nous allons essayer de regarder ce matin en quoi ça consiste de donner selon Dieu. Qu'est-ce que c'est que donner selon Dieu? Que dit la Bible à ce sujet? Et comment donner selon ce que dit la Bible? Car nous voulons agir selon ce que dit Dieu. Avant d'aller dans le texte, d'habitude je prends toujours le texte biblique et je démarre toujours comme cela, mais j'aimerais faire un petit rappel pour mentionner quels sont les noms qui sont inscrits dans la Bible qui parlent au sujet de la façon de donner. Quels sont les noms donnés aux différents dons? Premièrement, il y a le don de la libéralité. En fait, la libéralité... on va les voir les uns après les autres. Il y a le don de l'aumône. Alors, quand j'ai mis un S entre parenthèses, c'est que ce sont des noms qu'on peut trouver au singulier ou au pluriel. Il y a la dîme ou les dîmes. Il y a l'acte de bienfaisance. Il y a l'œuvre de bienfaisance ou l'assistance destinée aux saints. Et puis, il y a les promesses de la foi. Et ce matin, nous allons mettre un accent particulier sur les promesses de la foi, et nous allons regarder le texte justement sur lequel on s'appuie pour parler de l'engagement par la promesse de la foi et définir ce que c'est. Mais avant, j'aimerais donner une idée globale de ce que sont les offrandes dans la parole de Dieu. Tout d'abord, la libéralité. Qu'est-ce que c'est que la libéralité? C'est un don spirituel qui consiste dans le désir intense de donner, dans la faculté de le faire conformément à la volonté de Dieu. Par exemple, en Romains, Paul dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. En Timothée, Paul dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité. Et en hébreu, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. En fait, quand on fait une étude exhaustive de tout ce qui concerne les offrandes dans la Bible, on voit que tout simplement, tous les dons pourraient être associés au mot libéralité, parce que la libéralité, c'est tout simplement la générosité. Or, tous les dons, quels que soient les noms mentionnés dans la Bible, sont attachés à la libéralité. Autrement dit, Dieu est riche et il s'attend à ce que les enfants donnent abondamment, parce que Dieu lui-même prend soin de nous enrichir afin que nous puissions donner avec abondance de la même manière que lui nous donne avec abondance. Donc le mot libéralité est attaché en fait à tous les dons que l'on trouve dans la Bible. Le second mot que l'on trouve, c'est l'aumône. Qu'est-ce que l'aumône? L'aumône, c'est un don fait aux pauvres par compassion. C'est quelque chose que l'on fait avec discrétion. Par exemple, à Matthieu, Jésus a dit, « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes, je le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » L'aumône est faite avec discrétion et donnée à ceux qui sont dans le besoin. C'est fait avec discrétion pour éviter tout orgueil spirituel de la part du donateur. Et ça devrait être dans le cas de chaque don, mais aussi pour pas mettre mal à l'aise la personne qui reçoit le don. Donc c'est fait avec amour, avec compassion, avec discrétion. L'autre mot que l'on trouve dans la Bible, évidemment, abondamment, c'est le mot « offrande » au singulier ou au pluriel. Mais il y a deux types d'offrandes que l'on trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, plutôt dans l'Ancien. C'est d'abord l'offrande volontaire et puis l'offrande d'action de grâce. C'est toujours un don fait à Dieu par reconnaissance. Par exemple, Moïse, Salomon, Esdras ont eu des projets particuliers extraordinaires où les croyants de l'Ancien Testament ont été appelés à donner. Par exemple, en Exode, il est écrit « Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, c'était la construction du tabernacle. » Vous savez que c'était une révélation, même le plan de la part de Dieu, une vision que Dieu a donnée à Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Ce n'est pas une offrande forcée, évidemment, c'est toujours une offrande volontaire lorsqu'on donne à Dieu, mais c'est dans un projet particulier. On retrouve ça du temps de Salomon lorsqu'il s'agit de la construction du temple, et aussi on retrouve cela du temps d'Esdras lorsqu'il s'agit de la reconstruction du temple. Donc l'offrande volontaire est une offrande apportée à la maison de l'Éternel pour bâtir la maison de l'Éternel pour un projet ponctuel particulier. Il y a aussi l'offrande d'action de grâce qui était souvent synonyme d'offrande de sacrifice dans l'Ancien Testament. Mais c'est un don, aujourd'hui, on peut évidemment avoir le fruit de lèvres qui confesse son nom par action de grâce, mais aussi dans nos cœurs, l'action de grâce, mais aussi donner une offrande qui plaît à Dieu par reconnaissance, suite à une délivrance, suite à une joie, suite à une bénédiction particulière. On est reconnaissant vers le Seigneur, on est dans l'action de grâce et la louange, et on fait un don particulier. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait l'offrande de l'action de grâce, souvent au travers d'une offrande, d'un sacrifice, notamment d'animal, ou une libation, ou quelque chose comme ça que l'on trouve dans le livre de Lévitique. Alors, il est vrai que chaque type d'offrande pourrait faire l'objet d'une étude, n'est-ce pas, et d'un message. Et pour ceux peut-être qui me connaissent, dans les années passées, notamment Pierre, j'ai fait toute une série à un moment donné sur les offrandes, le rapport du croyant avec l'argent, ce que dit Dieu, et on a passé 7 messages sur ce sujet, mais ce n'est pas le but de ce matin, rassurez-vous. L'autre offrande que l'on trouve dans la Bible, ce sont les dîmes ou la dîme. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit le livre de John MacArthur, notamment, qui parle de donner selon Dieu, il a fait un calcul que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas 10% que les Israélites donnaient, mais c'était exactement, il a cumulé cela. C'est un peu difficile à faire comme calcul, mais il arrive jusqu'à 23%. Mais c'était lié à la vie du peuple d'Israël, et c'était une façon de pouvoir aussi au Lévitique et à la marche spirituelle d'Israël. En fait, comme définition, je pense tout simplement qu'on peut dire que la dîme, c'est la partie de nos revenus qui appartient à Dieu. Lorsqu'on ne le donne pas, Dieu va le chercher, on trouve ça dans l'Ancien Testament. Le croyant qui cesse de donner, qui donne est béni de Dieu, mais le croyant qui ne donne pas ou qui ne donne pas ce qu'il devrait donner, par la foi, une partie de ses revenus, ben peut-être que Dieu va lui faire comprendre par différents moyens que ce qu'il a retenu, finalement, il va le perdre. Et c'est arrivé, il y a des témoignages là-dessus. Alors j'aime beaucoup prendre, et je vais vous le lire, vous l'avez aussi sous les yeux, ce que dit le dictionnaire biblique de René Page concernant la dîme. Dans la Nouvelle Alliance, bien que nous ne soyons pas sous la loi, certains chrétiens s'efforcent eux aussi de donner la dîme pour l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit là que d'un acte volontaire et qui dans beaucoup de cas ne voudrait représenter qu'un minimum. En réalité, selon l'Évangile, ce n'est pas la dîme, mais la totalité de nos biens et de nos revenus qui appartiennent à Dieu. C'est lui-même qui nous dira comment et dans quelle proportion nous devons les utiliser. Puissons-nous être de ceux qui, semant abondamment, récoltent aussi abondamment. L'idée n'est pas « je donne ma dîme et c'est un devoir au centime près et je suis satisfait d'avoir donné à Dieu ». L'idée, c'est que je demande à Dieu de donner et en fait, je donne ce que lui me demande de donner. Et en fait, devant Dieu, je prie, une fois que j'ai tout donné, de savoir ce que je vais garder. Mais l'attitude du croyant du Nouveau Testament, c'est je donne tout et je demande à Dieu qu'il me montre qu'est-ce que je dois garder pour moi, pour les besoins évidemment, on doit vivre, manger, etc. Mais l'idée, c'est qu'enfin, tout lui appartient. Et non seulement nos biens matériels, nos revenus, mais aussi tout notre être, corps, âme et esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Dieu qui nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. L'idée de retenir ici, c'est que la dîme est proportionnelle aux revenus, La Bible parle souvent qu'il faut donner selon sa prospérité, selon nos moyens, dont la proportion est biblique, le 10% est biblique, dans le sens que c'est une norme quelque part, que l'on peut avoir comme référence, une proportion, et ça nous garantit peut-être d'éviter de donner de façon spontanée ou de façon impulsive, sans calculer vraiment ce qu'on a réellement donné. La dîme permet aux croyants du Nouveau Testament de savoir au moins le minimum qu'ils donnent. C'est une façon de regarder la dîme et personnellement, c'est ce que je vis. Ensuite, il y a une autre définition concernant l'acte de bienfaisance, l'assistance destinée aux saints, c'est l'action de faire du bien à quelqu'un ou à des gens dans les difficultés. Et on va regarder 2 Corinthiens 8 et 9 ce matin. Notamment, c'est une collecte destinée aux saints de Jérusalem qui étaient dans la détresse. On va regarder ça un petit peu plus loin. Et puis finalement, effectivement, il y a ce qu'on appelle la promesse de la foi. Et vous avez une définition, notamment un petit article que j'ai écrit sur le bulletin de l'Église pour le mois de juin. En fait, c'est un don qui est fait à Dieu par la foi. Et je vous invite à tourner, enfin, je vous invite à tourner dans vos Bibles, en 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 5. Voilà la situation, peut-être qu'on doit dire cela de suite. Paul est en train, avec d'autres frères, de collecter de l'argent pour une grande famine qui a lieu à Jérusalem. Le besoin est énorme. Et il y a des gens qui sont touchés, notamment les Macédoniens, qui sont touchés, ce sont les églises de Philippe, de Thessalonique, de Bérée, qui sont touchés et qui ont commencé à donner. C'est un projet assez à long terme. Et les Corinthiens se sont engagés. Ils ont dit devant Dieu et devant témoins, nous allons aussi donner. Mais leur collecte tarde à venir, n'est-ce pas? Et comme Paul était très pratique, il les exhorte à donner. Et l'enseignement de 2 Corinthiens 8 et 9, c'est ce que nous allons voir ce matin, est extraordinaire dans son approche. Il est d'une profondeur et d'une maturité spirituelle qui doit nous réfléchir face à ces Corinthiens qui avaient la bonne volonté, mais qui étaient hésitants et qui finalement tardaient à passer à l'acte. On peut avoir une bonne volonté, mais si on ne donne pas ce qu'on promet devant Dieu, on est en train de se tromper soi-même, de tromper les autres dans l'engagement qu'on doit faire pour les besoins des autres et de tromper Dieu. Alors voilà ce que dit Paul, notamment en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. » Donc c'est une promesse, un engagement que les Corinthiens ont fait à donner. Mais Paul va développer au travers de ce besoin des Corinthiens d'être exhortés à donner. C'est vrai que parfois on a besoin d'apprendre à donner, d'être exhorté à donner, dans le sens d'être encouragé, d'être instruit à donner. Et Paul est en train au chapitre 8 et chapitre 9 de leur expliquer enfin l'attitude qu'ils devraient avoir face à cet engagement, à cette promesse de donner pour la collecte des saints de Jérusalem. Vous savez, l'apôtre Paul est d'une sagesse extraordinaire. Il touche les cœurs des Corinthiens à l'endroit exactement où il faut toucher, à la motivation, au cœur même du donateur. Avant d'aller un petit peu plus loin, de commencer à regarder en chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens, je voudrais juste rappeler quelques promesses de la parole de Dieu. Évidemment, elle pourrait faire aussi l'objet de toute une méditation pour chaque passage. Mais j'aimerais dire que dans le contexte de la compréhension du don que l'on donne à Dieu, dans les Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens ». Dieu prend plaisir à ce qu'on donne, à ce qu'on regarde ses revenus comme quelque chose qui vient de Dieu, ça ne nous appartient pas. Et aimer Dieu, c'est l'honorer dans le sens de donner une partie de nos biens à Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens. Donc celui qui ne partage pas ses biens devant Dieu n'honore pas l'Éternel. C'est ce que dit la Bible ici, dans ce sens-là. Et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Il faut dire que du temps de la fête des prémices, les Juifs prenaient les premières gerbes comme les prémices de la moisson et les agitaient devant l'Éternel et offraient leur dîme afin de montrer qu'ils avaient confiance que Dieu allait bénir la moisson. Et ensuite, ils donnaient la dîme de leur moisson. et différentes dîmes. L'idée, c'est que nous recevons par la foi, si nous avons un travail, un toit, de la nourriture tous les jours, allez dans d'autres pays misérables où il n'y a absolument rien, dans une grande pauvreté, vous allez voir que c'est un grand privilège de manger tous les jours, et même de choisir la nourriture qu'on peut acheter. C'est un grand privilège d'avoir un toit, parce qu'il y a des gens qui dorment à 15, 20 dans une petite chambre quelque part dans le monde, ou qui n'ont même pas de toit. C'est un grand privilège même de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir se faire soigner. C'est un grand privilège de même avoir une voiture. Quel privilège! D'abord, ça commence peut-être par un vélo, n'est-ce pas? Mais c'est déjà un privilège d'avoir un vélo. Et ainsi de suite. Quelle est la façon d'être reconnaissant envers Dieu? Surtout nous qui vivons dans l'abondance, c'est d'apprendre à donner à Dieu. Et même parfois, ce sont les plus pauvres qui donnent le plus généreusement. Jésus a regardé la femme qui donnait la pide, n'est-ce pas, et qui donnait de son bien et même de son besoin essentiel. Elle a donné plus que ce qu'elle devrait donner. Et Dieu prend plaisir à celui qui donne. Dieu aime celui qui donne. Voulez-vous être l'objet de l'amour de Dieu? Apprenez à donner selon Dieu. Apprenez à donner au-delà de ce que vous pouvez même penser. Mettez Dieu à l'épreuve et Dieu ouvrira les écluses des cieux. C'est ce que dit notamment Malachie. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Quand un croyant, une église, une œuvre cesse de donner ses revenus à Dieu et se trompe dans le sens qu'elle garde ses revenus pour s'enrichir, elle trompe Dieu. Le monde nous apprend exactement l'inverse. Nous devons nous enrichir. Nous devons nous enrichir, nous devons avoir toutes sortes de biens. Le monde nous dit que nous devons nous enrichir et avoir et recevoir le plus possible. La Bible dit exactement l'inverse. Nous devons donner tout ce que nous recevons et par la foi croire que Dieu va pourvoir nos besoins. Nous devons apprendre à tout donner pour recevoir. Tandis que le monde dit nous devons tout recevoir et garder éventuellement tout, n'est-ce pas ? Quoique parfois, il y a des sollicitations dans les nations pour des projets particuliers face à des maladies, n'est-ce pas, qui sont difficiles à soigner, et gloire à Dieu pour cela. En Matthieu 6, Jésus nous avertit, et d'une grande vérité, il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le velor, les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne portent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il n'est pas question ici de quantité, il est juste question ici de savoir donner. Le croyant qui peut donner peu, mais qui donne beaucoup du peu qu'il a, recevra une récompense éternelle et aura un grand trésor dans le ciel. Ce n'est pas une question de quantité que je donne, parce que c'est proportionnel à ses propres revenus, mais c'est une question de cœur, d'attachement, d'être attaché au ciel plus que sur la terre, de viser le ciel et l'éternité plus que notre vie sur terre qui n'est que passagère. L'homme n'est poussière, il retourne à la poussière, et lorsqu'il meurt, il laisse tout, n'est-ce pas? Donc notre héritage spirituel, il se bâtit jour après jour dans le Seigneur par rapport au ciel. Et les récompenses, le salut est gratuit, éternel, mais les récompenses seront proportionnelles à la consécration qu'on aura sur terre et que l'on a sur terre vis-à-vis de Dieu. Il est écrit aussi en Luc, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et finalement, Paul dit à ses chers Philippiens qui l'ont soutenu abondamment, il leur dit cette belle promesse inspirée par Dieu, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Maintenant, nous allons survoler, et je vous invite à tourner vos Bibles enfin, en 2 Corinthiens chapitre 8, nous allons nous poser la question, comment est-ce que le croyant doit-il donner ? Avant d'aller dans le passage plus particulier à partir du verset 6 du chapitre 9 de 2 Corinthiens, nous allons faire un survol du chapitre 8. C'est bon, vous ouvrez vos Bibles, la parole de Dieu, c'est magnifique, on a cette liberté de regarder la parole de Dieu et on regarde au verset 1. Et nous lisons à partir du chapitre 8 de 2 Corinthiens, verset 1. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Une grâce. Là, il est question d'une sollicitation pour une collecte afin de donner pour combler le besoin évident des frères et sœurs de l'Église à Jérusalem. Et la Bible dit de suite que dans ce projet, ça prend la grâce de Dieu. Tout don prend la grâce de Dieu. Il faut la grâce pour donner, la grâce de Dieu pour donner. Et il faut aussi la grâce de Dieu pour recevoir. Ça vous est jamais arrivé de devoir recevoir quelque chose dans le besoin? Mais ça prend une grâce de Dieu de savoir recevoir et dire merci. Peut-être dans le domaine matériel déjà de savoir recevoir. Peut-être dans le besoin d'être secouru sur le plan spirituel. Ça prend aussi de la grâce de dire oui, j'ai un problème, j'ai besoin d'être secouru. Aidez-moi mes frères et mes sœurs. En tout cas, l'idée de la collecte ici, c'est à pour source la grâce de Dieu. S'il n'y a pas de grâce dans notre vie, nous ne pouvons pas donner. Tout projet doit venir et a pour origine la source, a pour source la grâce de Dieu. Verset 2, il faut que j'aille un petit peu plus vite, mais bon, ça y est, vous êtes bien accrochés, j'espère. À travers la grande épreuve de leur affliction et leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Là, c'est un vocabulaire intensif. Grande épreuve, affliction, certainement la persécution des Macédoniens, joie, pas n'importe quelle joie. D'ailleurs, le mot joie, c'est le mot grec qui a donné hilarité. C'est d'avoir une joie, mais exubérante. La joie, elle est déjà profonde, mais c'est une joie en plus qui est mentionnée, débordante. Mais vous allez me dire, mais ils sont persécutés, ils sont prêts à donner, ils sont dans la joie. Et il y a un autre paramètre, ils sont dans une pauvreté profonde. Vous vous rendez compte? Ils ont donné abondamment, mais pourtant ils sont pauvres. Et la Bible dit ici, de riches libéralités de leur part. Ils ont donné avec abondance de riches libéralités. Tout le vocabulaire ici est intensif. Un cœur joyeux, persécuté, profonde pauvreté, mais abondance, riche libéralité. Pourquoi? Parce que leur cœur est touché. Nous ne pouvons pas forcer, Dieu ne peut pas forcer nos cœurs à donner. Mais nous pouvons recevoir de lui la grâce de savoir donner, de donner selon ce qu'il veut qu'on donne. Ça commence par l'amour. Toute motivation pour donner commence par l'amour. Et il est écrit au verset 3, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Le don qu'ils ont fait, l'attitude qu'ils ont eue face à cette collecte, c'est de donner volontairement. Ils ne se sont pas sentis forcés à entrer dans le projet. Ils disent oui, c'est le projet de Dieu pour moi. Je vais donner. Et chacun a donné de tout son cœur volontairement. Et même au-delà de leurs moyens, comme la femme, la pauvre veuve et sa pite, ils ont donné au-delà de leurs moyens, en croyant que Dieu allait combler ce qui était nécessaire pour eux. Et verset 4, non seulement ils ont donné avec grâce, ils ont donné avec amour, ils ont donné avec joie, mais ils ont donné aussi avec zèle. Il est écrit, nous demandant avec de grandes instances, encore un vocabulaire très fort, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'était des cœurs entiers pour le Seigneur. Ils ne jouaient pas avec Dieu. Seigneur, on a tout reçu de toi, tu as donné ta vie pour nous, nous voulons aussi donner nos cœurs. Et en donnant notre cœur, nous donnons tout, y compris nos revenus. Et si on est appelé à donner, que Dieu nous donne cette grâce de participer au projet. Au lieu de dire, oh, encore une sollicitation, mais ça suffit maintenant. Ils ont dit, quoi? Il y a un besoin? Mais Dieu a tellement fait dans nos vies. Nous voulons participer. Nous sommes là par la grâce de Dieu, peu importe si nous sommes pauvres, nous sommes persécutés, nous avons la joie de donner. D'ailleurs, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, ils l'ont fait avec zèle. Ils n'ont pas eu besoin d'être sollicités chaque culte, j'allais dire, ou chaque semaine, ou recevoir un email d'urgence de l'apôtre Paul. Dans le cas des Macédoniens, ils avaient cette attitude parfaite. Les Corinthiens, eux, vous savez l'église de Corinthe, hein? Un pied avec le Seigneur, un pied avec la chair, un pied avec le Seigneur, ils jouaient au yo-yo et même il y avait du péché assez grave dans l'église. Et même dans le domaine de l'argent, ils ne savaient pas trop bien régler cela. Ils promettaient, ils s'engageaient, ça semblait être un beau sentiment d'amour. Ils avaient tous les dons, n'est-ce pas? Ils avaient tous les dons à Corinthe. Paul dit à un moment donné, vous avez tous les dons, vous êtes riches avec tous vos dons. Seulement, le don du cœur, c'est d'abord ça. Il faut tout donner son cœur. Et dans ce don du cœur, on apprend à donner Et le donner au Seigneur, ce n'est pas simplement un sentiment, c'est un engagement. Je ne donne pas pour donner, je ne donne pas à, je donne au Seigneur. C'est ce que vivaient ici les Macédoniens. Et verset 5, il est écrit, ils ont non seulement contribué comme l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Le projet venait de la volonté de Dieu. Ils se sont donnés à ceux qui dirigeaient dans ce projet, certes, mais l'idée ici est que tout a démarré dans leur cœur, puisqu'ils se sont d'abord consacrés eux-mêmes dans leur cœur. Je pense à ce verset de Salomon, qui est dans les Proverbes, et qui dit, et c'est Dieu qui parle, qui dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Quand Dieu a vraiment notre cœur, il a aussi nos revenus, n'est-ce pas? Quand Dieu a vraiment notre cœur, il a le reste de notre vie. Ce n'est pas simplement un sentiment, c'est une consécration. Alors nous devons donner aussi avec sagesse, si vous voulez lire un petit peu plus loin au verset 12, il est écrit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » Autrement dit, on s'engage à donner, mais on sait rationnellement quelque part qu'on a de quoi donner. Or les Corinthiens, ils avaient fait de belles promesses, mais Paul est en train de devoir les ranimer dans leur motivation et leur rappeler leur engagement, leur rappeler leur promesse de donner. Par exemple, au verset 8, il dit « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. » Tout d'un coup, il s'est aperçu que leur volonté s'était émoussée, que leur engagement s'était émoussé, et là il leur dit « Mais finalement, étiez-vous sincères dans l'amour qui devait vous engager à donner aux autres ?» Est-ce que vous avez un amour sincère envers Dieu et envers les autres? Ou l'avez-vous fait de vous-même? Et l'apôtre Paul est en train de leur dire quelque chose d'assez extraordinaire ici, qui est la vraie motivation de tout donateur, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » On a un doute qu'il faut donner, on a un doute qu'il faut s'engager, Paul nous dit voilà, la vraie motivation du croyant, c'est de regarder à Jésus qui lui a tout donné, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc Paul est en train de dire aux Corinthiens, êtes-vous prêts à vous appauvrir pour enrichir d'autres? Maintenant, vous donnez peut-être quelque chose et nous donnons peut-être quelque chose sans que ça touche vraiment notre nécessité. Et on pense qu'on s'appauvrit lorsqu'on donne, mais c'est un très mauvais calcul. Mais si on commence déjà à donner le surplus de nos revenus ou une portion de nos revenus, mais le nécessaire dans nos vies, là nous touchons vraiment le cœur de Dieu parce que cela veut dire, Seigneur, c'est pas de la présomption. Ça veut dire, Seigneur, je suis prêt à m'appauvrir, à vivre frugalement pour dépenser que seulement ce que tu veux que je dépense pour soutenir ton œuvre. Mais cela vient non pas d'une contrainte, cela vient d'un cœur qui regarde à Jésus. Et je vous invite juste un petit moment à regarder à Jésus. Regardez Jésus à la croix, en train de mourir, en train d'avoir ses pieds cloués, ses mains clouées, cette couronne d'épines sur la tête, tous les blasphèmes qu'il endure autour de lui. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Et tous les blasphèmes, les parjures qu'il a reçus. Tout cela, il a fait l'agonie de Gethsémané, l'agonie de la croix, afin que nous, un jour, nous puissions être pardonnés, nous puissions être appauvris de nos péchés, afin d'être riches dans son amour et de son pardon, afin que nous puissions nous dépouiller de nos œuvres mauvaises pour nous enrichir spirituellement. Et évidemment, lorsqu'on est enrichi spirituellement, on est prêt à s'appauvrir matériellement pour donner au Seigneur. Tout cela, c'est la grâce de Dieu dans la vie du croyant spirituel qui regarde à Jésus. Lorsque nous vous avons invité ce matin et nous avons réfléchi à cela, et c'est avec crainte et tremblement que nous vous proposons ce projet, parce qu'il va être le reflet de ce qu'est notre cœur devant Dieu pour la mission et pour Dieu lui-même. Si nous regardons à Jésus et aux besoins de ce monde perdu, oui, nous voulons soutenir la mission, nous voulons soutenir toute personne qui est engagée dans le salut des âmes, parce qu'il s'agit de la mort et de la vie, de l'enfer et du ciel. Ce n'est pas jouer avec les émotions de dire cela, c'est juste la réalité. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de notre confort alors que le monde est en flammes, brûle et est destiné à la perdition sans Christ pour toujours? Ou est-ce que nous allons nous engager à prêcher l'évangile et à donner à la mission? Alors les Corinthiens avaient une bonne volonté quelque part, mais ils devaient apprendre à donner selon leurs moyens, mais aussi avec sagesse, de manière à ce que leur bonne volonté soit vraiment mise en pratique. Voilà, c'était un rappel d'un survol et de quelques principes que l'on trouve en 2 Corinthiens chapitre 8. J'aurais quelque part aimé voir cela par exposition tout le chapitre et après chapitre 9, mais c'est une stratégie pédagogique, si vous me permettez, en le disant comme si, que j'ai choisi de vous donner ce matin. Nous allons regarder à l'instant, et je vous demande d'être patient, à partir du verset 6. Donc l'apôtre Paul est en train d'exhorter les Corinthiens à donner. Il rappelle la bonne attitude des Macédoniens, donc il exhorte les Corinthiens. Entre parenthèses, mais je le dirai tout à l'heure, faites-moi savoir si j'oublie, d'accord? J'ai une pensée à vous donner, mais je pense que ça ira mieux vers la fin du message. On lit à partir du verset 6. Ça y est, vous êtes là avec moi? Et on va regarder ensemble ce que dit l'apôtre Paul au sujet du don. Il part de la loi et du cycle de la moisson. Il est écrit au verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » L'apôtre Paul désire enseigner les Corinthiens et les motiver à donner. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit « Semez peu, c'est moissonner peu ». Ben, tout bon agriculteur connaît cela, non? S'il garde la semence, et si au moment de jeter la semence, il dit « Ah non, je veux garder un peu de semence pour la moisson prochaine, pour la saison suivante. » Qu'est-ce qu'il fait? Il prive le sol de semences qui va pouvoir donner une moisson abondante, qui va elle-même donner des semences, qui va pouvoir utiliser par la suite pour ressemer. Donc quand il dit « Je donne qu'une partie de la semence », qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit « Je ne récolterai qu'une partie ». Et donc finalement, il s'affaiblit, il s'appauvrit, parce que le principe, c'est de donner abondamment pour recevoir abondamment. Donc celui qui sème peu, moissonne peu, c'est logique dans l'agriculture, et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Et en plus, comme je viens de dire, il y a multiplication, parce que plus je sème, plus je récolte, plus j'ai des semences, et plus je peux semer, et donc plus je peux récolter. C'est une logique de multiplication que tout bon agriculteur connaît, sachant que la nature même nous l'apprend. Donc plus on donne, plus Dieu donne en retour. Ici, le mot « donner abondamment », c'est intéressant parce que dans le mot grec, ça signifie finalement « bénédiction ». Et on pourrait traduire comme cela, « Celui qui sème avec bénédiction, moissonnera avec bénédiction. Et celui qui sème parcimonieusement, moissonnera aussi parcimonieusement. » Ça y est, j'ai réussi à le dire. Autrement dit, nous devons apprendre à donner beaucoup pour recevoir beaucoup, pour pouvoir donner encore plus. J'attendais un amen. Amen. Ah, merci. Quelle est ma part dans tout cela? Premièrement, il est écrit, et je vous invite à regarder le verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. » Moi, j'aime bien Paul. Marie, aimez vos femmes. Hein? C'est chaque mari. Femme, aimez vos maris. Soyez soumise, que chacune soit soumise. C'est chacune ou c'est juste quelques femmes qui doivent se soumettre? Mais là, c'est écrit que chacun, ici, quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Donne comme il l'a résolu. Tiens, Paul, il est quand même assez rusé, je trouve. Hein? Il aurait été un bon manager dans des affaires. Il dit oui, chacun. Il n'est pas en train de dire que celui qui veut donner, donne avec résolution. Il dit que chacun. Il est en train de dire, dans l'église de Jésus, chacun est appelé à donner. Chacun. Devant Dieu. Là, il est en train de placer la responsabilité des Corinthiens individuellement. Chacun est appelé à donner. C'est pas que certains doivent donner. Savez-vous quoi? J'ai appris une fois, dans une union d'église au Canada, que 90% des dons étaient donnés par 10% seulement des gens de l'église. Il est écrit que chacun ici, chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc nous devons apprendre à donner de façon abondante. Et il est écrit aussi, donner avec résolution. C'est, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du malin. Je m'engage parce que je suis résolu. Non seulement j'ai une conviction, mais je ne donne pas un jour tout d'un coup parce que ça me plaît, je sens que Dieu veut que je donne. J'ouvre le chèque, je donne. Ou je donne. L'autre jour, oh là là, j'ai une mauvaise semaine. Oh, cette semaine, moi, je ne donne pas. Hein. Dieu me, il a plu toute la semaine quand même, j'attendais du soleil. Nous devons donner avec une résolution. Ça veut dire qu'on ne doit pas jouer au yo-yo avec Dieu dans la façon dont on donne. C'est une résolution de cœur qui me responsabilise devant Dieu et certainement ensuite devant les hommes. Parce que quand j'ai résolu de donner devant Dieu, automatiquement, ça a une incidence sur l'œuvre de Dieu. Donc c'est une résolution personnelle et qui doit être, la Bible dit, sans tristesse ni contrainte. Parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voulez être aimé de Dieu, donnez avec joie. Vous n'avez pas la joie, ne donnez pas. Ou plutôt, demandez à Dieu de vous aider à avoir la joie de donner. C'est plus pratique. En fait, Dieu aime que l'on donne avec joie. La Bible dit, la paix, le royaume de Dieu, c'est difficile. C'est pénible, donner à Dieu. Non, la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix et la joie. Nous devons apprendre à vivre nos vies chrétiennes avec la joie du Seigneur, qui sera notre force, dit Ézéchiel. C'est la joie du Seigneur qui est ma force. Je peux être pauvre, mais si je suis riche dans le Seigneur, si j'ai la présence de Dieu, il y a des frères persécutés qui sont en prison, qui n'ont rien, mais ils ont la joie du Seigneur. Et même pasteur Von Brandt, qui a été 14 ans en prison, il a témoigné, j'avais qu'une peur, c'est de sortir de prison et ne plus goûter ce paradis dans ma cellule obscure pourtant, mais avec une telle lumière de la présence de Jésus. Lorsqu'on a goûté que le Seigneur est bon, est-ce qu'on n'a pas envie d'être attaché à lui et de garder cette joie? Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. C'est pas le plus grand bien que sa présence. Donc quoi que ce soit que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu et dans la joie du Seigneur. Arrêtons d'être des chrétiens tristes, mais soyons des chrétiens joyeux en toutes choses, notamment en donnant, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, donnons d'une manière systématique. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 6, la Bible dit que chacun, au début de la semaine, met à part ce qu'il peut donner selon ses moyens. Même Paul dit qu'il faut donner de façon systématique. Ça s'appelle une résolution et non pas du sentimentalisme. Maintenant, Paul, il va un peu plus loin. Vous savez, moi, je pense qu'on aurait écouté Paul, on aurait parfois tremblé. Parce que sa façon de parler au cœur, si on écoute vraiment ce qu'il dit, bon, c'est écrit. Mais si on écoute vraiment ce que dit Dieu au travers de lui, c'est la parole inspirée, ça fait beaucoup réfléchir. Pourquoi ? Par exemple, il dit ceci, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces ». On a vu que tout don au départ vient de la grâce, mais c'est quand même assez subtil. Paul dit, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Est-ce que Dieu est puissant? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a créé les cieux et la terre. Il maintient le monde dans sa main. Hein, si on n'est pas brûlé aujourd'hui, c'est la terre étant, si ma mémoire est bonne, dans un angle, l'axe de la terre, 23 degrés, 27 minutes par rapport à l'éthique, hein, n'est-ce pas? Et de plein elliptique. Et il suffirait d'un demi-degré pour qu'on soit tous gelés ou tous brûlés. Dieu maintient le monde dans sa main puissante. Il est celui qui maintient le monde. Même si les hommes ont tendance à détruire la terre, mais il maintient le monde par sa grâce. Il a fait des miracles incroyables, autant dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Et le plus grand des miracles, il a envoyé son fils. Dieu n'est pas puissant de s'être incarné un jour sur la terre. Vous croyez que Dieu a besoin de notre argent? Vous croyez que... Crois-tu que Dieu a besoin de ton argent? Il a besoin de ton cœur pour que tu sois le reflet de son amour. C'est ça qu'il veut. Mais Dieu est tout puissant. Est-ce qu'il peut tout? Oui, il peut tout. Il pourrait même transformer les cailloux en louanges envers Jésus, s'il l'avait voulu. Mais dans sa grâce, il y a une école de la foi qui veut nous apprendre. Et dans cette école de la foi, il veut nous apprendre à donner, à lui faire confiance. Si nous n'avons pas confiance dans le domaine matériel, où est notre confiance en Dieu? Tout est dû? Non, rien n'est dû. Nous recevons et nous devons donner parce que nous croyons que tout ce que nous recevons vient de Dieu. Donc Dieu peut. Et cette puissance ici, la Bible dit, elle comble le croyant de toutes ses grâces. Les grâces peut-être de vivre moins richement, Comment donner plus au Seigneur? Moi, j'ai une idée à vous partager. Il y a plusieurs façons de pouvoir donner plus. On peut augmenter ses revenus, si l'on peut. Bon, là, il faut que j'aille voir mon trésorier. Hein. Non, je plaisante. Mais on peut vivre avec plus de sacrifices. Pensez, l'église de Québec, que certains ont visité, l'église où j'étais le pasteur, nous devions bâtir un bâtiment de 900 mètres carrés. Dieu avait pourvu un terrain de 12 000 mètres carrés, imaginez, extraordinaire, une valeur aujourd'hui extraordinaire, un milieu du développement de la ville, incroyable. Mais on n'avait pas le moyen de bâtir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à chaque famille de donner $1 par jour. Ça voulait dire combien? $30 par mois à chacun. Comment on économise $1 par jour? On a fait toute une liste, se priver d'un café, faire attention à la façon dont on se déplace. Vous savez, on peut économiser beaucoup en économisant nos déplacements, et ainsi de suite. Vous avez peut-être votre petite liste. Savez-vous quoi? On a bâti cette église comme cela, avec $1 par jour par personne. Pourquoi? Parce qu'on avait la foi. Et ce n'était pas un vrai sacrifice. Je peux vous dire, quand je voyais les gens vivre dans l'église, je peux dire que je n'avais pas l'impression qu'ils se sacrifiaient énormément pour donner $1 par jour. Est-ce que vous avez déjà donné de votre pain pour nourrir quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes déjà donné au Seigneur? En fait, toutes ces grâces, c'est de pouvoir peut-être donner plus en se privant un petit peu plus, ou peut-être recevoir plus, ou agir d'une façon dans nos vies où on peut faire des économies, vous avez compris. Pourvoir en toute chose à tous ses besoins. Le Seigneur, toute chose, tous ses besoins. Le mot tout ici, le langage est très intensif. Si Dieu peut tout, El Shaddai, est-ce qu'il peut toute chose dans ma vie? Est-ce qu'il peut pouvoir tous mes besoins? Oui. Est-ce que je peux tout recevoir pour tout donner? Oui aussi. Donc l'idée ici, c'est que non seulement Dieu pourvoit en toute chose avec tous nos besoins, pour donner aux chrétiens l'abondance, pour pouvoir donner pour toute bonne œuvre, préparée d'avance. Donc c'est dans sa volonté. Ce n'est pas de donner de façon avec un manque de sagesse, mais de donner dans le plan de Dieu qui glorifie Dieu. C'est donner selon Dieu. Le mot grec ici, pour « il peut », c'est le mot grec en fait qui plus tard a donné le mot français « dynamite ». Dieu a une dynamite, hein? Sa puissance, le soleil maigrit de 500 milliards de tonnes par jour. Pourtant, on ne se plaint pas. Bon, il manque un petit peu en ce moment parce qu'on ne le voit pas. Mais si vous prenez l'avion et vous allez au-dessus des nuages, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil, la constante solaire ne varie pas. Si vous connaissez un petit peu cela, la constante solaire ne varie pas. Et pourtant, il maigrit de 500 milliards de tonnes par jour. Alors, Dieu peut nous donner quelques régimes d'amaigrissement concernant nos biens et on continuera de, et même peut-être plus, de rayonner à sa gloire. Dieu est tout puissant. Et comme ça, il y a un fondateur d'une mission qui s'appelle Abbé Simpson, hein, de l'Alliance chrétienne et missionnaire, qui a commencé l'œuvre missionnaire, envoyer des missionnaires dans le monde au travers d'un programme des promesses de la foi. Il a trouvé dans ce passage que Dieu nous appelle à donner par la foi, et même au-delà, sachant que Dieu va combler nos besoins. Il y en a un autre aussi qui a fait cela, à Toronto, Oswald Smith, qui a écrit le livre, le fameux livre, « La passion des âmes ». Lisez ce livre, c'est extraordinaire. Votre vie va être transformée si vous lisez ce livre. Attention, lisez-le. Hein. Mais je vous avertis, vous allez être transformé si vous lisez ce livre. Vous ne pourrez pas être le même après. Impossible. La vision missionnaire qu'il a eue, cet homme-là, elle est extraordinaire. Il a mis en pratique les promesses de la foi. Savez-vous quoi que son église, People Church, à Toronto, a soutenu pas 5, 10 missionnaires, mais des centaines de missionnaires? Il y a des églises aujourd'hui qui, par les promesses de la foi, ont plus d'argent que leur budget pour donner pour la mission. Savez-vous que dans le monde, il y a des gens qui se sacrifient pour envoyer des missionnaires? Dieu nous appelle à suivre cet exemple, à être des missionnaires de même que Jésus est venu sur la terre. Quel est le but de Dieu en nous faisant penser comme ça? Ben, il est simple, il rappelle, Paul, un passage dans l'Ancien Testament, ce que l'on écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est incroyable cela. Moi je pense qu'il y a quelque part une connexion avec toute bonne œuvre. Tout d'un coup je me suis dit, mais ce passage, ici ces deux versets sont connectés avec le tout début. Dieu a appelé les croyants à donner pour combler la pauvreté des croyants à Jérusalem. Maintenant, il dit, Paul, voilà, Dieu peut tout vous donner, Puis il dit d'ailleurs, c'est dans sa volonté qu'on peut donner à toute bonne œuvre. Mais quelle est la bonne œuvre? Ben voilà, et c'est au travers de nous que Dieu donne. Il reste souverain dans tout ce qui est donné sur la terre. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Et puis plus loin, verset 10, il augmentera les fruits de votre justice. Il est dans la justice de Dieu que nous donnions à ceux qui sont plus pauvres. Il y a des pauvres matériellement sur la terre, on verra le film du voulant tout à l'heure, mais il y a des pauvres spirituellement. Et la justice de Dieu, nous pouvons la réaliser en évangélisant, en gagnant des âmes pour le Seigneur, parce qu'on établit sa justice sur terre ainsi, en établissant Christ dans les cœurs. Un autre aspect que l'on va regarder, parce que Dieu est souverain dans tout cela, veut dire même de donner est un acte spirituel. Et je dirais que c'est surtout spirituel, l'acte de donner. Ça vient d'un cœur spirituel, régénéré. Parce que finalement, Dieu est souverain. Il ne va pas donner sa gloire à quelqu'un qui veut garder sa gloire pour lui. Il va donner sa gloire à quelqu'un qui est prêt à donner. Je pense à Georges Müller, qui a nourri des enfants, des centaines d'enfants, des orphelinats, alors qu'il n'avait pas plus d'argent pour plus de 3 jours. Et tous les jours, Dieu lui donnait la nourriture pour ses enfants. Et il donnait tout ce qu'il recevait. Quand Georges Müller est mort, il avait juste quelques centimes. Il n'avait rien à laisser à sa femme. Rien. Mais pourtant, il y a des bâtiments qui ont été construits, des enfants qui ont été nourris, et des enfants qui sont donnés au Seigneur, qui sont même, eux, devenus des missionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient tout ce qu'ils recevaient. Sans jamais solliciter qui que ce soit, ils recevaient par la foi, ils priaient, Dieu lui donnait, et ils redonnaient tout ce que Dieu lui donnait. Je veux dire, mais non, mais c'est juste quelques-uns qui sont appelés comme ça. C'est juste quelques-uns qui ont été prêts à vivre par la foi. Parce que c'est le même principe. Et le but, c'est la gloire de Dieu. Alors, avons-nous des excuses pour ne pas donner? Et là, je peux vous dire qu'il me semble que l'apôtre Paul frappe fort. Regardez ce qu'il dit ici. Si on ne donne pas, on fait Dieu menteur. Parce que voilà ce que dit Dieu ici. Au verset 10, il dit... Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. D'où vient la semence? C'est Dieu qui la donne. Et même plus, c'est lui qui fait multiplier la semence. Et puis il augmente les fruits de la justice en nous. Autrement dit, quand on ne donne pas, c'est qu'on ne croit pas que Dieu pourvoit nos besoins. Et quand on retient ce qu'il nous donne, c'est qu'on ne croit pas que Dieu peut encore pourvoir nos besoins. Autrement dit, on fait Dieu menteur. Si Dieu peut, c'est ce qui est écrit, il peut vous combler, c'est une grande vérité. Est-ce que Paul a menti ici? Est-ce que Paul dit la vérité? Il peut combler le croyant de tout? Peut-être pas de la 3e voiture, la 4e télé, le 5e ordinateur, le 6e maison sur la Côte d'Azur. Je caricature, vous avez compris. Nous vivons tellement dans le confort, nous ne réalisons pas que le peu même que nous pourrions mettre de côté pourrait glorifier Dieu. Et augmenter notre part dans l'évangélisation du monde. Augustin disait, Dieu couronne ses propres dons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui suscite le cœur qui donne, c'est Dieu qui suscite la capacité de donner, c'est Dieu qui nous donne les dons pour qu'on puisse les donner. Et la couronne, c'est la cerise sur le gâteau, c'est encore Dieu qui le fait. C'est merveilleux cela. Alors vous allez me dire, mais moi je ne peux pas donner. Alors avant de dire cela, réfléchissez un petit peu. Quel est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Est-ce qu'il peut tout? Réfléchissez fort avant de dire « je ne peux pas donner ». Et on va terminer en lisant les versets ici à partir de verset 11, si vous voulez bien, jusqu'au verset 15. On va résumer cela. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. La grâce... Pour ce projet, la grâce de donner, la grâce qui s'est étendue, et maintenant qui suscite des actions de grâce à ceux qui en sont témoins. Non seulement Dieu fournit la semence, mais en plus il enrichit à tous égards, n'est-ce pas, tout ce qui donne par toute espèce de libéralité. Autrement dit, encore une fois, Paul ressouligne, plus je donne, plus Dieu me donne, plus je peux donner. Et finalement, ça amène à un autre domaine, ça amène l'action de grâce en ceux qui sont témoins. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une œuvre abondante, source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile. Ils, c'est les Macédoniens, hein, Et de l'évangile de Christ, il est de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Réfléchissons un petit peu. Qui étaient ceux qui étaient dans le besoin? Des Juifs. Vous avez vu comment Pierre a eu des difficultés à annoncer l'évangile aux païens? C'est Dieu qui lui a donné une vision pour aller chez Corneille. Il était incapable de penser que les païens pouvaient eux aussi avoir l'évangile. Quel esprit sectaire! Et Dieu l'a transformé. Et maintenant, ce sont les Juifs à Jérusalem, de qui vient le salut, qui sont dans le besoin. Et par qui vont-ils être aidés? Par des païens, des Macédoniens, des Philippiens, des gens de Bérée, des Corinthiens, des païens, des goy, des non-juifs. Alors il fallait la grâce qu'ils reçoivent ce don-là. Et quand ils l'ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Dieu pour eux. Ils ont commencé à aimer de l'amour de Dieu les païens. Dieu, au travers de ce miracle de don, a mis ensemble juifs et païens. Il a suscité un amour fraternel extraordinaire. Lorsque une église sent qu'elle est dans une même barque pour un projet missionnaire ou un projet d'église, on donne et on prie les uns pour les autres et on apprécie les uns les autres et les dons exercés. Et donc, on glorifie le Seigneur et ça renforce la communion fraternelle. J'aimerais juste terminer par une petite illustration, si vous me permettez. Et c'est vraiment la conclusion. Oui. Oui, c'est la conclusion maintenant. Ma femme et moi, nous vivions à Québec pauvrement, pas aussi pauvres que d'autres qui sont encore plus pauvres. Mais nous sommes arrivés dans une église, nous avions 23 centimes dans notre compte en banque. Et Dieu nous a dit d'aller dans une église où personne ne voulait aller. L'église pouvait pourvoir à nos besoins pendant 3 mois, 800 dollars canadiens, je précise. À l'époque, c'était 30% moins cher que le dollar américain, pour 3 mois, et après, ils ne savaient pas comment. Et on a dû apprendre à vivre par la foi. Et une fois, Dieu a suscité un don, quelqu'un avait fait un héritage d'un terrain, aux États-Unis, nous a envoyé un don, ce n'était pas un immense don, peut-être 200, 300 dollars, mais l'Église avait besoin de rétroprojecteurs, l'Église avait besoin de ça, et on l'a donné au Seigneur. Dans l'offrande, le jour même, le dimanche, où on a donné à Dieu ce qui nous semblait nécessaire pour l'Église, malgré qu'on était dans la nécessité, Dieu nous a donné exactement le même montant. Un croyant est venu nous dire, il me dit, Dieu me met à cœur de vous donner cela. Et ça nous a encouragés. Parce que des fois, dans le manque de revenus, on peut se décourager. L'Église a besoin d'encourager les serviteurs de Dieu dans le monde, et les missionnaires, nous devons apprendre à les soutenir. Et un jour, ma femme et moi, alors que nous avions 6 enfants, l'un après l'autre, hein, 6 enfants, nous avons été invités dans une église baptiste, pour ne pas la mentionner, et ils nous ont invités, ils cherchaient un missionnaire éventuellement à soutenir au Québec, on est venus, mais enfin on ne savait pas qu'ils allaient nous soutenir, ils nous ont soutenus quelques années quand on était au Québec. Et ils ont fait quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Jamais de ma vie. J'avais jamais vécu ça. Et il fallait la grâce de recevoir. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ils nous ont mis devant, ma femme et moi, les 6 enfants. Et l'église, les uns après les autres, nous ont amené des cadeaux. Et on avait une montagne de cadeaux qui commençait à nous entourer. On n'avait jamais vécu ça, ma femme et moi. Des mots d'amour, d'encouragement, des versets bibliques, toutes sortes de cadeaux pour les enfants, pour nous. Et j'étais là, j'étais assis. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, j'étais brisé. Il me fallait la grâce de recevoir, mais de dire merci Seigneur, parce que c'était un don d'amour qui était en train d'être fait envers moi, envers mon épouse, envers nos chers enfants. Et cette église nous a soutenus. Mais vous savez, ce souvenir d'être aimé, on l'a toujours gardé. Parce qu'ils ont montré en action leur amour, ils ont vu un besoin. On n'avait jamais été gâté de notre vie comme cela. Jamais de notre vie. Vous savez, ce qu'on peut donner parfois, même si c'est peu, peut dire beaucoup. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prions. Notre Père Céleste nous place devant le choix de nous engager pour les promesses de la foi ce matin, pour la mission. Nous te prions dans ta bonté d'accomplir cette œuvre en nous. Au nom de Jésus. Amen.